France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Le soutien américain décisif dans l'exfiltration de Maria Corina Machado. L'opposante vénézuélienne est arrivée à Oslo où elle devait recevoir le prix Nobel de la paix. Et elle espère bien retourner au Venezuela où elle vivait cachée, dossier dans un instant. Volodymyr Zelensky serait prêt à des concessions territoriales à la Russie. Mais le président ukrainien pose une condition. Il faut une élection ou un référendum pour valider ses concessions. En France, Brandt, c'est fini ou presque. La justice a prononcé la liquidation du dernier fleuron français de l'électroménager. La classe politique s'insurge, nous dira Annabelle Grelier. À 18h15, maire pour quoi faire, notre rendez-vous hebdomadaire sur les élections municipales. Aujourd'hui, l'enjeu de l'intelligence artificielle pour les communes, dossier préparé par Adrien Toffoli. Maria Corina Machado a finalement réussi à rallier la Norvège la nuit dernière. Trop tard pour recevoir son prix Nobel de la paix à Oslo, mais sa fille était là pour récupérer la distinction. L'opposante vénézuélienne avait plongé dans la clandestinité dans son pays après la réélection douteuse du président Nicolas Maduro en juillet 2024. Aujourd'hui en sécurité grâce aux États-Unis, on va y revenir dans un instant. Elle n'a pas du tout l'intention de prolonger son exil. Elle compte bien ramener son prix Nobel à Caracas.
Bien sûr que je retournerai au Venezuela. Le gouvernement vénézuélien m'aurait fait disparaître s'il m'avait trouvé quand j'étais au Venezuela. Je connais exactement les risques que je prends. Ce que j'ai dit au peuple vénézuélien depuis le début, c'est que je serai dans le lieu où je suis la plus utile pour notre cause. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'endroit où je pensais devoir être était le Venezuela. L'endroit où je crois devoir être aujourd'hui au nom de notre cause, c'est Oslo.
Maria Corina Machado sur l'antenne de la BBC à Oslo. L'opposante a évoqué le soutien décisif du gouvernement américain pour son exfiltration. C'était sa première apparition publique depuis une manifestation de l'opposition vénézuélienne le 9 janvier dernier à Caracas, la capitale du Venezuela, où l'on retrouve notre correspondante Alice Campagnol.
Maria Corina Machado est enfin arrivée à Oslo après plusieurs jours de doutes sur sa véritable localisation. Les conditions de son départ du Venezuela restent floues, mais l'opposante a reconnu en conférence de presse aujourd'hui avoir été aidée par les Américains dont des troupes stationnent en mer des Caraïbes depuis maintenant plusieurs mois. La proximité de Machado avec Washington est ancienne et elle a rappelé cet après-midi son soutien à la campagne antidrogue américaine au large du Venezuela. Une campagne qui a fait plus de 80 morts jusqu'ici, allant à l'encontre du droit international. L'opposante vénézuélienne a longtemps appelé de ses voeux une intervention étrangère dans son pays pour défaire Nicolas Maduro, dont la réélection l'an dernier est contestée. Ses positions pro-américaines et pro-militaires ont créé la controverse autour de son prix Nobel. Elle répond que son pays a besoin du soutien du monde entier pour récupérer la démocratie.
Effectivement, cette aide américaine à Maria Corina Machado s'inscrit dans une politique globale de l'administration Trump qui espère la chute du régime Maduro. Les États-Unis renforcent la pression militaire sur le Venezuela. Nouvelle illustration hier, la saisie d'un pétrolier géant, le Skipper, au large des côtes vénézuéliennes. Nous sommes avec Franck Madvon, direct de Washington. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Franck, Caracas dénonce un acte de piraterie internationale.
Oui, Washington adopte une nouvelle stratégie en saisissant cet énorme pétrolier vénézuélien. C'est un bateau de 330 mètres de long. L'info a été donnée hier par Donald Trump lui-même. La ministre de la Justice, Pam Bondi, a diffusé sur son compte X une vidéo de l'opération d'une quarantaine de secondes. On y voit des soldats américains descendre en rappel d'un hélicoptère sur le pont du tanker. L'équipage n'est pas visible. Il n'aura opposé aucune résistance. D'après Pam Bondi, plusieurs agences et ministères ont collaboré à l'opération, le FBI, le Pentagone, le ministère de l'Intérieur et les gardes-côtes américains. Le pétrolier a pour nom le Skipper. Il est sous le coup de sanctions du Trésor américain pour ses liens avec des organisations terroristes, à savoir les gardiens de la Révolution en Iran et le Hezbollah libanais. Pour Washington, ce navire transporte du pétrole de contrebande lié à un réseau terroriste. Il s'agirait de pétrole vénézuélien produit par la compagnie nationale PDVSA. Mais le bateau aurait aussi transporté dans le passé du pétrole iranien également sous sanction. Contrairement aux frappes contre les navires transportant de la drogue, il y a bien cette fois un cadre légal. Le pétrolier saisi fait l'objet d'un mandat. En saisissant un pétrolier, Washington prend pour cible le poumon de l'économie vénézuélienne qui reste très dépendante du pétrole, même si ses exportations ont beaucoup baissé depuis quelques années.
Merci Franck Madvan, correspondant de France Culture aux États-Unis. On en sait plus ce soir sur les propositions ukrainiennes pour mettre fin à la guerre contre la Russie. Volodymyr Zelensky envisagerait des concessions territoriales à Moscou, mais à condition qu'une élection ou un référendum valide ces concessions. Selon le président ukrainien, il y a des questions clés qui restent irrésolues, comme le contrôle de la région de Donetsk ou le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia, actuellement occupée par les Russes. En attendant un hypothétique cessez-le-feu, l'Ukraine développe son industrie des drones, son principal atout pour résister aux assauts des soldats de Poutine. Claude Guibal.
Un véritable pilier de la stratégie militaire ukrainienne. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne ferait décoller environ 9000 drones par jour, des appareils de toutes sortes, des drones kamikazes pour détruire des blindés, des drones guidés par fibre optique, impossibles à brouiller, ou encore des drones maritimes comme ceux qui ont quasiment neutralisé la marine russe en mer Noire. L'an dernier, l'Ukraine aurait produit 1,5 million de drones. On parle de 3 fois plus cette année. Une industrie pensée pour compenser au fond tout ce qui manque à l'Ukraine sur le terrain, les missiles, les effectifs, la profondeur stratégique. Ces drones saturent les défenses, ils harcèlent l'artillerie, ils détruisent les blindés, coupent la logistique, visent les dépôts, les raffineries. En Ukraine, on répertorie environ 200 fabricants capables aujourd'hui de produire des engins simples, bon marché, mais adaptés au terrain. Cette production s'est faite au départ avec des composants relativement faciles à trouver, commandés sur Internet à travers le monde et assemblés non dans des usines, mais dans de tout petits hangars anodins, des ateliers cachés dans des bâtiments civil pour ne pas risquer d'être pris pour cible par l'armée russe. L'an dernier, ces drones auraient été responsables de 60% des pertes russes. Ils peuvent frapper désormais des cibles jusqu'à plus de 1000 km en territoire russe. Une expertise dont même les États-Unis cherchent à profiter puisqu'un drone deal, un accord sur les drones, est actuellement en discussion entre Kiev et Washington.
Le Portugal a tourné au ralenti aujourd'hui en raison d'une grève générale, la première depuis 12 ans, un mouvement pour protester contre la réforme du travail annoncé par le gouvernement de centre-droit. Et pourtant, le Portugal affiche une belle santé économique, presque 2% de croissance et des excédents budgétaires à faire pâlir la France. Une situation florissante qui n'a pas entamé la détermination des manifestants rencontrés aujourd'hui à Lisbonne par Vincent Barros.
Non aux pacotes laborales. Comprendre, non à la réforme prévue par l'exécutif pour augmenter la production et flexibiliser le marché du travail. C'est ce que scandaient cet après-midi des milliers de pancartes et de gens dans les rues de Lisbonne, comme Maria Marques, institutrice.
Le marché du travail est déjà largement en faveur des patrons. Et cette réforme va encore accentuer ce déséquilibre. Retirer encore des droits aux travailleurs n'augmente pas la production.
Cette grève générale est d'autant plus paradoxale qu'elle intervient alors que la croissance du Portugal avoisine les 2%, un dynamisme économique sur lequel capitalise le Premier ministre Luis Montenegro pour critiquer l'action des syndicats, un narratif qui agace Samantha Velio, gestionnaire de projet.
C'est de la propagande et de la démagogie. Il faut voir ce que pèse le salaire minimum face au coût de la vie et à la flambée de l'immobilier. La croissance économique n'est pas dans la poche des travailleurs, mais à la banque.
Un avis partagé par Miguel Rosendo Charpentier.
Plus de croissance, alors que les gens n'arrivent plus à épargner, sont à un loyer de se retrouver à la rue. On regarde la croissance du PIB comme la seule chose qui nous intéresse. Réduire la qualité de vie des travailleurs au nom de la productivité est inefficace. Ça va même produire l'effet inverse.
En réponse à la mobilisation, le gouvernement a déclaré cet après-midi que l'adhésion à la grève était insignifiante.
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal administratif de Nouméa a infligé aujourd'hui un véritable revers au gouvernement. Il condamne l'État à verser 28 millions d'euros à l'assureur Alliance car il juge sa responsabilité engagée dans les énormes dégâts provoqués par les émeutes de mai 2024 dans l'archipel. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Stanislas.
Il est reproché à l'État d'avoir tardé à déployer les forces de l'ordre face au risque d'émeutes.
Oui, parce qu'il y a eu de nombreuses alertes dans les jours et les semaines qui ont précédé le déclenchement des émeutes en mai 2024. Et les autorités calédoniennes ont réclamé que des renforts soient envoyés depuis la métropole, ce qui n'a pas été fait. Le tribunal de Nouméa considère donc qu'une part de responsabilité incombe à l'État français, les commerces détruits n'ayant pas été suffisamment protégés. Cette décision concerne 14 commerces assurés par la compagnie allemande Allianz et détruits dans la banlieue de Nouméa entre le 15 et le 17 mai 2024. Or, on sait que plus de 1000 commerces et entreprises ont été détruits ou endommagés au cours des émeutes qui ont duré plusieurs semaines dans l'archipel calédonien. Et selon le président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, Hervé Mariton, ce jugement n'est peut-être que le premier d'une longue série.
Je sais que d'autres compagnies ont actionné devant les tribunaux la responsabilité de l'État. Et donc, il peut y avoir d'autres décisions de la même nature qui constateraient la responsabilité de l'État et donc une dette de l'État à l'égard des sociétés d'assurance.
La compagnie italienne Generali, notamment, a elle aussi engagé des procédures. Mais derrière cette question, il y a également un problème d'assurabilité des entreprises et des commerces en Nouvelle-Calédonie. C'est de plus en plus difficile. De nombreuses compagnies se sont retirées ou bien ont exclu un certain nombre de risques dans les contrats qu'elles proposent. Elles ont aussi augmenté les primes qu'elles réclament à leurs clients. Et tout cela a des effets très pénalisants sur le plan économique, car de nombreux entrepreneurs n'ont pas reconstruit ou n'ont pas réinvesti, faute d'être couverts. Par ailleurs, il est pour la même raison très difficile d'attirer de nouveaux investisseurs sur le territoire calédonien, territoire qui se débat dans un marasme économique sans précédent, avec une chute du produit intérieur brut de 13,5% mesurée pour l'année 2024.
Explication signée Stéphane Robert. L'actualité économique est dominée ce soir par un séisme, la disparition programmée du dernier fabricant français de gros électroménagers. Le tribunal des activités économiques de Nanterre a en effet prononcé aujourd'hui la liquidation de Brandt. Environ 700 emplois vont être supprimés, dont 350 à Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans, où se trouve la principale usine du groupe. Annabelle Grelier, la classe politique quasi unanime conteste cette décision, alors qu'il y avait un projet de reprise sur la table.
Colère, sidération, incompréhension. Ce sont les élus locaux de tous bords qui ont le plus vivement réagi. Ils se démenaient depuis des semaines pour éviter cette liquidation judiciaire. Ils avaient interpellé le gouvernement qui avait rapidement annoncé un soutien de l'État de 5 millions d'euros pour constituer une offre de reprise sous forme de SCOP. Le projet avait reçu ces derniers jours une large adhésion d'une majorité de salariés et des pouvoirs publics qui avaient assuré avoir trouvé les 20 à 25 millions d'euros nécessaires à une relance de l'activité. Alors pourquoi n'a-t-elle pas convaincu le tribunal ? Dans son communiqué, Bercy déplore que d'autres acteurs indispensables n'ont pas souhaité se positionner pour sauver Brandt. Sans les nommer, ce sont bien les banques qui sont désignées. Pour le député Renaissance du Loir-et-Cher, Christophe Marion, la frilosité des banques est un vrai problème.
Là, je crois qu'on a un sujet sur le financement aujourd'hui de l'économie, de l'industrie, et les banques sont beaucoup trop frileuses. L'épargne des Français et des Européens finance la Silicon Valley avant de financer nos entreprises françaises. Et ça, c'est absolument illogique. Il va falloir véritablement intervenir sur ce sujet.
Le groupe Revive, qui portait ce projet de SCOP, plus spécialisé finance qu'industrie, n'aurait pas non plus convaincu, à tort, pour Christophe Marion.
Pour moi, le projet, il était solide. Alors évidemment, il y a toujours une prise de risque hein, quand vous reprenez une entreprise de cette taille-là. Mais je crois que tout le monde doit prendre son risque. J'ai participé au salon Made in France, à l'Élysée, au salon fabriqué en France. Et là, on est en train de tuer des marques françaises, de tuer du savoir-faire français. C'est pas admissible aujourd'hui.
Au total, quelques 700 emplois disparaissent et les salaires ne seront plus versés après le 15 décembre. Tous les services de l'État se disent mobilisés. Une réunion est prévue lundi en préfecture pour déclencher des mesures d'accompagnement.
La préfecture du Rhône voulait interdire le Lyon Antifa Festival ce week-end. Elle invoquait des risques de troubles à l'ordre public pour ce festival musical antifasciste qui doit se dérouler à Villeurbanne, car selon la préfète Fabienne Buccio, les groupes à l'affiche délivreraient dans leur musique des messages hostiles à la police. Wafia Kenich, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le festival pourra finalement se tenir, c'est ce que vient de décider le tribunal administratif de Lyon.
Oui, absolument, les organisateurs du festival viennent de l'apprendre de la bouche de leurs avocats. C'est donc une victoire. Le festival Antifa avait déposé un référé liberté au tribunal administratif de Lyon. Tribunal qui a donc rendu sa décision et conclu que le festival pouvait se tenir pendant les 3 jours à compter de ce soir et jusqu'au 13 décembre inclus. L'État est condamné pour atteinte aux libertés fondamentales et devra verser 400 euros à chaque requérant, parmi lesquels la CGT Spectacle et les organisateurs. Ces derniers joints par téléphone sont soulagés et heureux après deux jours d'attente et de crispation. La rumeur d'une interdiction planait d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Le festival était la cible répétée de la droite et de l'extrême droite. Depuis novembre, politiques locaux et nationaux avaient donc critiqué ce festival, mais aussi le syndicat de police Alliance qui souhaitait interdire les concerts. Hier, la veille de l'événement, la préfecture avait décidé d'interdire ce festival. Dans l'arrêté préfectoral, qui a été publié mercredi, est donné le détail de ce qui est reproché aux différents interprètes. Des actions ou propos jugés anti-police, notamment des paroles de chansons évoquant, je cite, « des véhicules de police en feu, des surveillances de masse, des flics qui font des trafics ». Le festival qui existe depuis 12 ans sans avoir jamais connu de problème, rappellent les organisateurs, pourra donc se poursuivre cette année.
Merci Wafia Kenich. Un mot du temps demain, la grisaille persiste, surtout sur la moitié nord. Au sud, après les brouillards matinaux, les éclaircies domineront. Demain matin, il fera entre 4 et 11 degrés en général. L'après-midi, comptez entre 8 et 17 degrés du nord au sud.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Maire, pourquoi faire notre rendez-vous hebdomadaire avant les élections municipales de mars prochain? Aujourd'hui, l'enjeu de l'intelligence artificielle qui modifie en profondeur nos sociétés, y compris à l'échelon local. D'après le baromètre 2025 de l'Observatoire Data Publica, en 3 ans, plus de la moitié des communes françaises ont commencé à tester des systèmes d'IA. Alors, comment les maires et leurs équipes utilisent-ils ces outils aux défis multiples? C'est un reportage d'Adrien Toffolé.
Il ne fait pas partie des précurseurs.
Moi, je suis à l'année zéro du sujet.
Patrick Molinoz, le maire de Vénarey-lès-Laume, commune rurale de moins de 3000 habitants en Côte d'Or, il a cependant les yeux tournés vers l'avenir.
J'ai une intention d'utilisation d'intelligence artificielle, notamment par rapport à une problématique particulière qui est celle de l'inondation.
Car régulièrement, une rivière, la Brenne et son affluent, l'Oz, font des dégâts sur la commune, faute d'outils adaptés.
Aujourd'hui, lorsqu'on est amené à prévenir la population, on le fait encore beaucoup au doigt mouillé, à expérience, au souvenir des anciens, c'est très empirique. Du coup, il nous arrive de nous tromper. Si nous arrivons à croiser les données de Météo France, de capteurs sur les rivières, de données de ruissellement, nous serons très probablement en capacité de prédire l'inondation avec un taux d'exactitude proche de 100%. Nous serons en capacité de déclencher les alertes, les secours de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus efficace.
Et ce, grâce à des systèmes d'intelligence artificielle, comme Nîmes, par exemple, a mis en place il y a plusieurs années. Et ce n'est qu'un usage parmi d'autres utilisés ailleurs en France. Robots conversationnels en soutien aux standardistes en mairie, outils d'identification des fuites sur les réseaux d'eau, dispositifs de gestion des bâtiments publics pour faire des économies d'énergie, des initiatives qui ne sont bien souvent possibles qu'à travers des partenariats privés avec les entreprises qui développent ces outils, mais aussi à travers des mutualisations indispensables entre communes.
Je prends l'exemple de la Bourgogne-Franche-Comté. 98-99% des communes ont moins de 3500 habitants, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas de ressources internes dédiées, formées à ces sujets. Certaines technicités, certaines spécialités sont à la fois trop rares et trop chères pour que même des grandes collectivités s'en emparent. Donc il faut se mettre ensemble pour pouvoir recruter les meilleurs spécialistes et garder cette notion d'intérêt général comme réelle boussole.
Constat partagé par Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris et vice-président en charge de l'innovation numérique à la métropole du Grand Paris, dans laquelle les outils sont partagés, testés en coopération entre grandes et petites communes.
C'est bien de pouvoir tirer des expériences positives de ce qui se fait à l'autre bout de la métropole. Partager les bonnes pratiques, expérimenter, former les personnels, les faire se rencontrer et ensuite métropoliser, c'est-à-dire développer à l'échelle des solutions numériques à base d'IA ou pas qui améliorent le quotidien des habitants.
Une façon également de minimiser le risque de fracture numérique entre les territoires, risque bien identifié par la sénatrice Les Écologistes des Yvelines, Ghislaine Senet, qui a produit un rapport en début d'année sur l'impact de l'IA sur les collectivités territoriales.
L'IA va à une vitesse folle, mais les collectivités, si elles ne sautent pas dans le train immédiatement, elle ne mourra pas dans 3 ans, comme on a pu l'entendre, mais
tech pour l'amélioration des conditions de travail. Pour pouvoir absorber ces nouvelles demandes, il faut d'ores et déjà effectivement qu'elles commencent à y réfléchir et surtout qu'elles aillent voir ce qui existe déjà. Enfin, il y a vraiment des réseaux sur les territoires, il suffit de les contacter et voir comment, quel outil, qu'est-ce qui se passe et comment la commune peut se saisir de ces outils.
Enfin, l'autre enjeu de taille pour les municipalités, c'est celui des données utilisées par l'intelligence artificielle, qui doivent non seulement être de bonne qualité, sans quoi les systèmes d'IA seront sous-performants et énergivores, et des données sécurisées, ce sont des informations qui concernent la vie publique territoriale, des informations administratives, des informations techniques. Il y a donc un enjeu sensible de souveraineté numérique qui peut se résoudre par la construction de lieux de stockage de données en France, les data centers, dont la construction néanmoins suscite souvent des oppositions d'habitants dans les territoires concernés. Bref, l'amélioration des politiques publiques locales grâce à l'IA ne se fera pas sans un travail d'acceptation citoyenne par les collectivités.
Et cet enjeu d'acceptation citoyenne est d'autant plus important que l'intelligence artificielle pourrait bien bouleverser les prochaines élections municipales, car ce sera la première campagne électorale nationale depuis la démocratisation des IA génératives comme ChatGPT. Des outils utilisés pendant la campagne, parfois de façon positive, parfois de façon malveillante. Je vous propose d'écouter l'analyse de Jacques Priol, cofondateur de l'Observatoire Data Publica, expert en gestion des données électorales.
Si on regarde comment se déroule une campagne électorale, on peut presque raconter les usages possibles de façon chronologique. Il y a d'abord la préparation d'une campagne. Aujourd'hui, on a des outils qui sont capables d'analyser un territoire, par exemple à travers un passage en revue de la presse sur les 6 dernières années du mandat, pour décortiquer les évolutions majeures, les événements importants, et d'une certaine manière produire une espèce de kit de connaissance du territoire qui sera très utile, alors peut-être pas aux équipes sortantes, mais les candidats qui étaient dans l'opposition, ou imaginez un candidat parachuté peut, de façon très rapide, accéder à une masse d'informations qui, auparavant, lui aurait fait défaut. À partir de là, l'IA générative, je ne le conseille peut-être pas, mais l'IA générative peut servir à écrire un programme. En tout cas, à chercher des idées en précisant l'orientation politique qui est celle du candidat de la tête de liste, en précisant la nature du territoire. L'IA générative a une capacité dans une étape de boîte à idées à aller chercher des choses vues ailleurs auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Il peut y avoir un foisonnement créatif. Ensuite, ce qui est tout à fait spectaculaire avec l'IA générative, c'est ensuite la capacité que l'on peut avoir à décliner un programme, par exemple par quartier, par cible, à l'attention des aînés, à l'attention des jeunes, à l'attention des demandeurs d'emploi, à l'attention des chefs d'entreprise. L'IA générative a cette capacité à reformuler sur des consignes pour faire du ciblage marketing, parce que c'est de ça dont il s'agit. L'un des métiers qui a été le plus transformé par l'arrivée de l'IA générative, c'est le métier du marketing et du ciblage. Eh bien, il est possible qu'un certain nombre de candidats utilisent tout cela.
Est-ce que cela pose déjà aujourd'hui des questions éthiques ?
De mon point de vue, oui. Et c'est pour ça que les candidats qui vont utiliser ces outils doivent être extrêmement prudents et extrêmement rigoureux. Le premier enjeu, il est d'ordre moral et même démocratique, parce que des candidats qui vont générer leur programme par IA risquent de se retrouver très rapidement en difficulté à porter des idées et des propositions qui ne sont pas le fruit d'une réelle expérience, d'une réelle connaissance du territoire, même si les idées peuvent paraître très séduisantes de prime abord. Et ça posera donc la question de leur capacité ensuite à les mettre en œuvre et à gérer la ville. Je le dis de façon assez claire, les électeurs ne voteront pas pour des IA, ils votent pour des hommes et pour des femmes. Si l'IA a été utile dans une étape de conception de programme, il faut malgré tout qu'une fois le programme validé, ce soit réellement celui des candidats. D'un point de vue éthique, il y a ensuite le sujet des fake news, le sujet de la transformation, de la manipulation de la réalité avec une apparence de vérité et de vraisemblance. Et c'est bien toute la force et tout le danger de ces outils. Et là, on va se retrouver face à une question assez centrale de mon point de vue. C'est l'obligation qui n'est pas juridique, mais l'obligation morale des candidats à mentionner lorsqu'il y a recours à l'intelligence artificielle.
Vous parlez de moralité, mais donc il n'y a pas de cadre légal encadrant ces pratiques aujourd'hui ?
Alors, il n'y a pas de cadre légal spécifique sur le recours à l'intelligence artificielle en campagne électorale. Par contre, il y a un cadre légal très strict sur ce qui est autorisé ou pas en termes de communication politique en période électorale. Et ce cadre nous apporte des garanties qui s'appliquent à l'usage de l'IA. Par exemple, l'IA pour faire du ciblage publicitaire, pour aller chercher les électeurs un par un en fonction de leur catégorie, de leur âge, de leur domicile. C'est quelque chose qui est très strictement réglementé. D'ailleurs, beaucoup de candidats ne le savent pas, mais il y a une nouvelle réglementation qui est applicable sur la transparence de la publicité politique, qui va notamment interdire l'achat massif de fichiers des listes d'emails ou des listes de téléphones pour prospecter les électeurs. Et c'est typiquement le genre de choses que l'on pourrait tenter de faire par l'IA. Le sujet, ce n'est pas l'IA, c'est la prospection commerciale à des fins politiques. Il y a aussi des textes qui existent sur la diffamation, sur les injures, sur ce qui est autorisé ou pas dans le cadre d'une campagne électorale. Et que l'on ait recours à de l'IA ou pas, ça ne change pas grand-chose. Des tracts diffamatoires fabriqués sans IA, distribués en dernière minute le samedi matin, c'est des choses qui ont de tout temps émaillé des campagnes municipales. Eh bien, là, il y aura simplement un outil supplémentaire pour produire peut-être de façon plus rapide ce genre de documents, mais ça tombera sous le coup de la loi de la même manière que si ça n'était pas fait par intelligence artificielle.
Jacques Priol, cofondateur de l'Observatoire Data Publica, répondait à Adrien Toffolet qui signe ce dossier de Mère Pourquoi Faire, à retrouver comme tous les autres sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.